Radio Tranxène, Strasbourg, sans acouphène.
Et bonjour, vous êtes sur Radio Judaïque à Strasbourg, émission Radio Tranxène. Cette semaine, on va avoir un invité associatif excellent, Alexandre Bertrand, représentant de l'association Kakemono, qui vient nous parler de l'organisation d'événements à Strasbourg sur le thème du Japon, de la pop culture, de la geek culture. Bonjour Alexandre.
Bonjour Jean-François, bonjour à tous et à toutes.
Ah oui, parce qu'on n'est pas seul dans le studio, hein. Pendant l'interview on a aussi le groupe Funk Industry qui est là sur le studio aussi, on aura la chance de les interviewer juste après.
Salut à tous et
salut
à toutes.
Bonjour messieurs.
Alors, comment ça se passe pour l'association Kakemono ?
Bah écoute, ça se passe bien, on a beaucoup de travail. On s'est donné comme mission là depuis presque 2 ans d'assister et d'aider les communes qui ont envie de développer la pop culture, la geek culture, le Japon traditionnel ou moderne dans leur ville. Donc ce qui fait qu'après la Japan, on a tout de suite sauté sur un projet qui était la fête de la culture de Bernay, qui commençait le 10 septembre. Donc on a fait une journée qui était exceptionnelle. On vient de sortir d'un gros week-end où on a fait le festival L'Empire Times à L'Empire Times et en même temps le concours cosplay au Château des Rouens à Saverne. Donc c'était un super gros week-end. Donc voilà, on essaye d'être au taquet. Et prochain événement, 18 novembre, la Japan Star, qui est dans un événement qui se passe en collaboration avec les cinémas stars de Strasbourg et le Camp Frier et l'association Kakemono. On organise en fait tous les trois un événement, 5 salles de cinéma, 5 ambiances différentes et environ 4 à 5 animations par salle.
Donc la Dream Team est au complet, hein, un programme 5 étoiles que propose notamment le Cinéma Star. C'est pas la première fois que vous travaillez avec eux.
Ce sera la 2e édition et pour la Japan Star. Il est vrai que la première, ça a été un essai, un test. Ça a été assez bien accueilli par le public, donc on espère, on souhaite que ce sera le cas pour cette édition-ci. Cette édition, c'est une spéciale Les Animaux, parce qu'il y a plein de projections autour des animaux, donc... On va proposer pas mal de petites choses. On est en train de créer un kamishibai. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
C'est un petit théâtre japonais dans lequel on glisse des décors.
C'est ça. Sauf que on va se servir de l'écran de cinéma pour les décors. Et on a quelqu'un qui est en train actuellement d'écrire des contes. Donc, ce sera quelque chose d'original qui aurait été créé par nous et qui portera forcément sur les animaux avec de l'humour ou pas, de la peur... du jugement, de la morale.
Alors rien qui fait peur au cinéma, à ce cinéma qui est habitué au cinéma d'auteur et à l'expérimentation. Je me réjouis de savoir que vous encouragez toujours les créations au sens très large autour de l'artisanat, de la création graphique, comme c'est présent d'ailleurs dans notamment la Japan Addict.
La Japan Addict, pour vite fait parler de la prochaine édition qui se passera au Parc des Expositions 2024, à première parenthèse, pour notre petite association... Le Zénith de Strasbourg est devenu trop petit, c'est un truc de fou.
Victime de la forte fréquentation de votre événement.
Il y a 8 ans, on est rentré dans le Zénith et on fait « mais on va faire comment pour remplir tout ça ?» Et cette année, j'ai regardé le Zénith et j'ai fait « mais je vais faire comment pour mettre tout ce que j'ai à mettre dedans ?» À tel point qu'on a dû réduire certains aspects, certains pôles, parce que on n'avait plus la place. On a dû même réduire le nombre de visiteurs. Donc, c'est vous dire qu'on n'a pas le choix. On n'avait plus le choix. Il fallait qu'on voit plus grand. Et avec le parc des expositions, on va avoir une dimension complètement différente. Mais le fond de notre identité, c'est justement ça. C'est qu'on est l'association des gens qui aiment les gens qui font des trucs.
La création, oui.
Donc, c'est 70% environ de créateurs actuellement. Et environ 30% de pros. J'ai envie de dire même 20% de pros et 10% d'associations. Parce que l'idée cette année, c'est de proposer aux associations un espace qui leur sera proposé gratuitement dans le cadre d'une animation ou d'une proposition d'animation qu'ils vont faire, que nous on ne proposerait pas, pour proposer en fait un programme, atypique, qui soit en fait le programme de la salle. Parce qu'en fait, on va avoir 5 scènes.
J'allais dire, il y a plusieurs halls à occuper dans la foire.
Il y aura le hall 1 et le hall 2. Il était question à un moment donné qu'on prenne le hall 3, mais... Voilà, pour des raisons évidentes, quand nous sommes qu'une association, là maintenant, tout de suite cette année, on va se concentrer sur les 2 halls, sachant que ça nous représente déjà presque, en termes de superficie d'exploitation, 3 fois plus qu'un Zénith. Donc, c'est vous dire que ça va être énorme.
Donc pour les créateurs, les illustrateurs, c'est le moment aussi de vous contacter parce qu'il y aura de l'espace pour s'exprimer, pour montrer leurs différents travaux.
Et ben les ouvertures des dossiers exposants ont eu lieu le 1er août de cette année. Les frais de dossier sont offerts jusqu'au 31 octobre, donc c'est l'occasion de faire son dossier avant, là encore quelques jours, il reste 5 jours je crois en date d'aujourd'hui.
Faudra envoyer le CV pile poil quand, enfin le CV, la demande pile poil quand l'émission est diffusée. Nous, on est diffusé notamment le dimanche et mercredi prochain.
D'accord. Voilà, ce sera l'occasion de dire maintenant, il faut prendre le dossier. Voilà, il faut faire le dossier, il faut s'inscrire. On a encore un peu de place, donc faut pas hésiter. On ne pousse pas encore les murs du hall 1 et hall 2, mais on y est presque. Mais voilà, mais pour vous donner un peu quelques exclus, on aura 5 scènes. Une scène Japon traditionnel, une scène quiz caout, donc toute la journée, 8 heures de caout par jour, 8 heures de quiz, donc tout thème, tout confondu.
Oui, c'est vrai que tu es un grand créateur de caout.
J'en suis à, je sais pas, plus de 10 000 ou 15 000 questions que j'ai créées sur ces 4 ou 5 dernières années.
J'avais vu celui que tu avais fait sur la culture japonaise, c'était très précis.
Oui, c'est un peu la particularité, c'est que j'aime bien être un petit peu subtil sur et les questions et les réponses des fois.
Je suis sûr que Funk Industry à la table doivent être incollables aussi sur la culture au Japon, parce qu'ils en reviennent d'ailleurs.
Ça va être l'occasion d'en discuter.
On verra.
Pas trop de jet lag, je sais pas.
On va pas trop se commander.
C'est risqué.
C'est risqué.
On est plutôt blind test.
Crédibilité.
Sur la musique, pourquoi pas.
On va en proposer aussi. Et donc, on va avoir une scène K-pop. Donc,
yes.
Qui sera... C'est un peu la grosse info, c'est que je vais créer en fait le Korean Corner au sein de la Japan Addict. Et il y aura un coin qui sera dédié en fait à la Corée, non pas juste à la K-pop, mais à la Corée. J'ai notamment, pour vous donner là, j'ai deux associations. Une qui est l'école de Coréen et une qui est l'association des Army Moms de France. Alors les Army Moms, c'est tout simplement des mamans fans de BTS, qui ont des enfants fans de BTS.
Oui, voilà. D'ailleurs, en vrai, on leur passe un chaleureux bonjour parce que c'est les mamans qui amènent leurs enfants au concert, hein, qui paient les places de concert aussi, donc c'est une grosse dédicace.
Donc c'est justement un super truc. Et là, pareil, elles ont un espace, elles ont pris un espace plus grand. Parmi ces espaces, comme c'est une association, on en offre un. On aimerait pouvoir offrir beaucoup plus d'espace à des créateurs, à des associations. Mais en fait, on est dans une réalité qui est que le parc des expos, c'est un coût financier non négligeable.
Ah, c'est comme si tu louais un aéroport.
Ouais, je pense que l'aéroport est moins cher.
Ouais.
Donc ouais, non, c'est, voilà, il faut partir du principe que on est une association, on n'a pas de subvention. On fait en sorte que la Japan fonctionne grâce aux exposants et aux visiteurs. Et donc, on essaye de rendre à nos visiteurs, à nos exposants, ce qu'ils nous ont donné comme sous. Donc, pour ça qu'on augmente chaque année, c'est pour ça qu'on grandit et qu'on mûrit de plus en plus chaque année. La Japan Addict fêtera ses 20 ans cette année. Donc, ce sera 20 ans de Japan. C'est pas la 20e édition, parce que des éditions, il y en a eu 60 ou 80 depuis 20 ans. Parce qu'on parle pas des Japan Pocket, qu'on en faisait 2 à 4 par an.
Bien sûr, il y avait les K-Pocket aussi.
Il y avait la K-Pocket.
C'est pas la première fois que vous essayez vraiment de dynamiser la communauté de fans de la Corée sur Strasbourg. Bravo pour ça.
On avait fait le Cover Dance Festival là, cette année aussi, au mois de mai.
Ah, j'y étais.
22 groupes qui se sont présentés, donc 22 groupes de K-Pop Strasbourg, enfin de cover de K-Pop Strasbourg. C'était assez impressionnant, c'était... On ne peut même pas dire tout niveau, parce que moi qui ne suis pas capable de faire les trois quarts de ce que j'ai vu... C'était super pro pour les 22 groupes. Même des jeunes filles, une jeune fille qui m'a impressionné à 13 ans, est toute seule sur scène et elle a fait un truc de ouf. Donc c'était assez impressionnant.
Monter sur scène toute seule, déjà sur sa playlist, affronter les regards du public et gérer comme...
25
comme
minutes pro, de quoi. Playlist, c'était, c'est pour une personne, déjà c'est énorme. Pour un groupe, c'est déjà beaucoup. Quand on voit que certains groupes en sont 15, 20... et que pendant la prestation de 15 à 25 minutes qu'ils peuvent proposer, ils échangent de personnes, en savoir que c'est une personne toute seule qui fait ça. C'est admirable et respectable.
Et le Cover Dance Festival, c'était un des rares événements autour de la K-pop qui a eu lieu à Strasbourg cette année. Hein. Vous êtes,
c'était le seul, mais en tout cas, il y en a peut-être eu d'autres, mais là, je n'ai pas l'info. Mais c'est vrai que là, le Cover Dance Festival, pour nous, c'était le seul événement, parce qu'on n'a pas pu proposer de K-pop à la Japan. Encore une des fameuses réductions qu'on a dû faire.
Oui, les contraintes de superficie, voilà. Même si le public...
Mais cette année, on aimerait et on veut faire revenir la K-pop et la culture coréenne au sein de la Japan. Donc, d'où cette création du Korean Corner. Et c'est une de nos membres d'assaut, Marie Alak, actuellement, qui s'en occupe et qui est chargée, en fait, de d'aller chercher des exposants et des gens qui sont intéressés. Et dans toute la France, là, elle est en train de glaner toute la France et de proposer à pas mal d'exposants spécialisés sur la K-pop, la Corée, de venir ici.
Vous avez raison d'élargir la K-pop à toute la Corée, parce qu'il y a vraiment, la K-pop c'est une porte d'entrée vers la culture coréenne, comme la musique japonaise peut être une porte d'entrée vers le Japon pour beaucoup. Et en même temps, ce sont parfois les mêmes personnes qui apprécient les deux cultures. Par exemple, on peut apprécier les dramas japonais, puis passer au drama coréen, et vice-versa pour la musique, ou alors pour les manhwas et les mangas.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est il y a par exemple la K-pop, c'est une chose, mais c'est un des arcs de la Corée. Mais je pensais justement aux dramas qui font fureur sur Netflix pour beaucoup d'entre eux. Là, j'en suis moi-même. On regardait pas mal et moi, j'avoue que j'aime beaucoup. après, il y a la K-beauty, le maquillage et tout le skincare en fait autour de la Corée, où ils sont en avance. De manière assez impressionnante par rapport à ce qu'ils font et leur manière d'être. Et donc, voilà, et toute la culture coréenne à proprement parler, qui a ses propres codes. Et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant autant pour les visiteurs que pour les autres exposants qui vont peut-être découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude.
J'aimerais qu'on récapitule les différents événements auxquels on peut assister les temps qui viennent. Les gens nous ont peut-être écoutés depuis quelques minutes.
Alors là, dans les prochains jours, on aura le 18 novembre la Japan Star, qui se passera au Cinéma Star rue du Jeu des Enfants, pardon.
Oui, à côté d'Homme de Fer.
C'est ça. On a un événement qui n'a pas encore de date, mais qui devrait se profiler en février-mars. Alors je vous donne une grosse info.
Ouais, ouais, ouais.
Nous allons refaire
des
Japan Pocket.
Ok, format réduit, intermédiaire avant les
et le projet va probablement se faire avec la ville d'Ilkirch, Grafenstaden, qui va proposer. Alors, on a deux salles qui nous sont proposées, dont l'Iliade. Et je pense que l'Iliade va être un bon choix, que ce soit intérieur ou extérieur, parce qu'elle propose une belle scène, un grand espace de salle pour proposer des exposants et des animations. Et sinon, on a la salle des fêtes municipales qui se situe exactement au terminus du tram de la ligne A. En gros, vous sortez du tram, vous êtes devant. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà, donc ces deux salles-là qui pourraient faire l'objet d'une Japan Pocket. Et on a rendez-vous demain avec la mairie pour monter le projet et avoir les acteurs de chaque pôle. Parce que mon objectif, c'est de faire un truc en collaboration, en partenariat avec la ville. Ce n'est pas de venir et dire « l'asso va organiser un événement ». C'est d'impliquer la ville d'Ilkirch, d'impliquer les associations locales, parce qu'Ilkirch regorge d'associations intéressantes. Donc c'est l'occasion de mettre en avant la culture ilkirchoise vis-à-vis de la pop culture, de la geek culture. Et ça, que vous fassiez du crochet à faire des peluches, ou que vous soyez vendeur de figurines, ou que vous soyez créateur qui fasse des fan art et des prints.
Ensuite, on a le programme de l'été prochain.
Ce sera 1er et 2 juin. Alors, sauf s'il y a d'autres choses qui se mettent entre d'ici là, ce qui va probablement arriver. Le 1er et 2 juin, on aura donc la grand-messe, comme je l'appelle, de la geek culture. Donc, la Japan Addict, 1er et 2 juin, au parc des expositions du Wacken. Et l'entrée se commencera à 10h. Et petite info, la billetterie ouvre le 1er novembre.
Oui, parce que l'an dernier, c'était sold out.
L'année dernière, c'était sold out. Alors, je ne dis pas que cette année, on le sera. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on avait une jauge. On va arrondir cette jauge. On était à 4000 visiteurs en flux tendu. C'est-à-dire qu'en constant dans le Zénith, on ne pouvait pas avoir plus de 4000 visiteurs à la fois.
Je pressens vraiment Alexandre, organisateur d'événements. Tu es d'ailleurs à la régie des stands. Hein. Tu gères toute la plantation.
Oui, voilà. En fait, il faut que je parle des choses que je ne gère pas. Parce que tout le reste, je m'en occupe. Donc, je ne gère pas la scène principale. C'est Fabrice Dunis, notre président, qui s'en occupe, qui est le metteur en scène, directeur artistique de cette scène. Et sinon, moi, je m'occupe de tout le reste. Voilà. Avec, bien sûr, tous les autres membres de l'association, parce que on est quand même quasiment 70. Et on a beaucoup de monde qui œuvre et qui organise avec moi. Je peux avoir 1 million d'idées. Sans mes membres, je ne ferai pas grand-chose.
Oui, parce que l'association Kakemono... compte des dizaines de membres, vous vous approchez certainement de la centaine vu que vous avez...
70 actuellement.
Vous aviez pour intention d'étendre le nombre de membres. Vous étiez un peu freiné parce qu'il y avait un fort engouement, mais en même temps en interne, déjà 70 bénévoles,
à gérer, ça doit être quelque chose d'incroyable.
C'est un peu comme une petite entreprise, sauf qu'on est des bénévoles et qu'on est là pour discuter ensemble de partager notre passion. Et donc, je dis souvent qu'on ne recrute pas sur les compétences, on recrute sur la passion et l'engagement de chacun. Donc, on a des personnes de toute origine, de tout âge, de tout bord qui sont présents et qui partagent en fait tout simplement leur passion pour indépendant de la geek culture ou de la pop culture, que ce soit la musique, que ce soit les animés, les mangas, les jeux vidéo, le dessin, l'art à proprement parler, la culture codifiée japonaise ou asiatique dans son sens plus large, les arts martiaux. Enfin voilà, donc il y a plein de gens différents mais qui sont là par une
par
communauté,
passion.
Par une passion. Et voilà, la communauté s'est créée parce que la passion est là et on a envie de donner quelque chose et de montrer quelque chose au public. Et on est tous bénévoles et je dis souvent, on est rémunérés en sourire. Parce que à la fin d'une Japan, c'est incroyable de voir les visiteurs, les exposants venir voir n'importe quelle personne qui a le t-shirt Kakemono et lui dire merci, c'était génial, c'était super. Et il y en a certains qui se disent, mais pourquoi vous me dites merci? Enfin, j'ai juste été à la billetterie, j'ai pas fait grand-chose, mais si, en fait, chacun a contribué, a fait en sorte de faire un succès de l'événement. Et voilà, et c'est tout un travail, on ne peut pas dire autrement, c'est tout un travail d'organisation, de préparation. La Japan, là, ça fait depuis le mois de janvier 2023 qu'on travaille dessus, sur la Japan de 2024.
Oui, toujours un an d'avance. Hein.
Plus d'un an d'avance.
Toujours le nez dans le guidon, dans plusieurs événements.
C'est ça.
On envoie donc un chaleureux merci à tous les bénévoles de l'association Kakemono. Vous restez ouvert, bien sûr, pour être contacté.
Oui,
on peut
absolument.
Vous contacter par Facebook.
Alors, on peut nous contacter par Messenger ou Instagram sur la page Japan Addict Z ou sur Facebook sur la page de l'association Kakemono. Mais le plus simple, parce que moi, je suis très chiant, c'est l'asso.kakemono@gmail.fr, c'est la boîte mail de l'asso. Si vous avez une question, si vous voulez poser, vous voulez un stand, si vous avez une idée, si vous voulez proposer quelque chose, asso.kakemono@gmail.fr. C'est vraiment l'endroit où il faut envoyer un mail, un message. Vous serez sûr, on est quatre derrière cette boîte mail, donc vous allez avoir une réponse presque 24 heures sur 24.
Je suis sûr que nos auditeurs ne manqueront pas de t'envoyer un mail.
Pas trop.
Merci beaucoup, Alexandre.
Merci à toi. Merci à vous tous.
D'être venu nous parler de l'association Kakemono et de tous les futurs événements qui arrivent. Donc pour rappel, c'est vrai, le 1er novembre ouvre la billetterie pour la Japan Addict Z. Ne manquez pas cette date.
Et on va organiser un super concours. Donc restez derrière les réseaux le 1er novembre.
Entendu. Merci encore, Alexandre.
Merci à toi.
Radio Tranxène, c'est...
Vous êtes toujours sur Radio Tranxène, sur Radio Judaïka Strasbourg. On passe maintenant à la chronique musicale. Je reçois le groupe Funk Industry. Bonjour, messieurs.
Salut à tout le monde.
Coucou.
On est très honorés. Hein. C'est pas la première fois que vous venez à notre radio pour parler de votre super musique, super groovy. Merci d'être là ce matin. L'émission est diffusée dimanche et mercredi, mais là, on est des terres. On s'est levé un matin comme ça pour parler de votre musique. Déjà, respect, parce que ce soir, vous avez un concert, donc je vais vous demander comment ça va.
Oh, très bien.
Toujours.
La forme. Très bien. Merci pour l'invite, d'ailleurs.
Complètement. Pour l'invitation.
Bon, forcément, je voyais pas 35 groupes à inviter sur une émission à Strasbourg sur le thème du Japon. Je veux dire, vous êtes maintenant la figure incontournable. Vous êtes fondé depuis 2016 ?
Ouais.
2017 peut-être, 2016 ?
Alors oui, le groupe Funk Industry, l'entité Funk Industry existe vraiment depuis 2017 avec un premier album qu'on a sorti à l'époque qui s'appelait Let's Do It Again.
Voilà. Yeah. Donc, et depuis, vous êtes devenu une figure incontournable du paysage du funk. Et maintenant, quand on parle de Japon à Strasbourg, étrangement, votre nom ressort. Parce que là, maintenant, vous avez pris un sacré tournant. Mais peut-être avant de passer à la musique, j'aimerais que vous vous présentiez. Alors, j'ai devant moi Nathan, le chanteur.
C'est ça, chanteur-guitariste Nathan, clavier.
Cool. J'ai aussi devant moi FX.
Ouais, bonjour tout le monde. Du coup, FX, clavier et deuxième voix.
Oh, mais c'est quoi cette personne au fond de la salle?
C'est JM,
salut,
basse, et frère de Nathan aussi, accessoirement.
Oh, pas qu'accessoirement.
Accessoirement quand même.
Ah, c'est vrai, hein, les deux frérots là, comme ça, coude à coude. Donc déjà, bravo, parce que le groove, ça repose sur la basse.
Merci, merci, merci à toi.
Bon, forcément, à toutes mes phrases, je risque de dire que un bon groupe qui funk, ça repose sur une bonne base groovy.
Bah c'est bien. T'as l'air
d'aimer mon instrument. Je suis flatté.
Et ça repose aussi sur du coup un long projet, une cohésion de groupe, aller au bout de la création d'albums, de clips, d'organisation de tournées. Qu'est-ce qui se passe de beau pour vous alors depuis ces derniers mois? Parce qu'il s'est passé des trucs de fou.
Effectivement, on a sorti un nouveau disque en juin dernier là, qui s'appelle Midnight City Lovers, sur lequel on a eu la chance de collaborer avec 5 chanteuses japonaises.
Oh, voilà. Oh mon dieu. Des featuring avec des chanteuses de là-bas. Ouais. Incroyable.
C'est aussi ça. Des chanteurs, faut pas les oublier. Il y a quand même deux chanteurs, deux voix masculines.
Ouais.
Alors pas sur l'EP. Sur des projets à côté, mais oui, tout à fait.
Ne les oublions pas, ils sont quand même là.
Exact.
Et ils ont d'ailleurs plutôt bien marché, hein, surtout un, n'est-ce pas ?
Ils ont contribué à développer notre implantation, notre audience et tout ça au Japon, et surtout notre esthétique. Donc merci à eux, c'était super aussi.
Merci Wes, merci Joie.
Voilà. Et du coup, ce nouvel EP, tout ce travail-là, c'est vraiment 2-3 ans de travail. On s'est focus sur le Japon, parce qu'on a eu une belle surprise de découvrir que des danseurs utilisaient notre musique, vers 2020, je crois.
C'était en plein milieu du premier confinement.
Ah, c'est ça. Et une aventure qui nous faisait envie, qui artistiquement aussi faisait envie à tout le monde. Donc on a plongé dedans et on a fini par sortir ce disque et aller tourner au Japon. En juin dernier, donc c'était une expérience assez folle.
C'est un véritable tournant dans votre projet, cette orientation assumée pour vers de nouveaux horizons, tout simplement. Vous avez entamé une grande exploration de la city pop.
Oui, alors exact. Du coup, une exploration de la city pop qui a débuté, en tout cas pour ma part, pendant le confinement, justement, une découverte de cette musique à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube et tout ça, à découvrir des pépites de la musique années 70 et 80 japonaise. Et c'est vrai que c'est devenu, une passion pour ma part, musicale et esthétique. Et donc, du coup, à laquelle j'ai essayé d'amener le projet Funk Industry et tous mes compagnons et amis dans ce projet. Et ça leur a plutôt plu et ça nous a plu ensemble de se dire on va bosser sur un album entièrement consacré à notre hommage, parce qu'on va pas dire qu'on fait exactement de la city pop, ça serait mentir et ça serait aussi ça serait mentir et c'est pas ce qu'on fait, on n'est pas un groupe de city pop.
Je crois qu'on
a opté
pour le terme de French city pop récemment, les gars.
J'avais cru comprendre parce que c'est vrai que vous avez sorti un titre qui s'appelle We Need Love, mm-hmm. qui au final rappelle quelque part les roots du funk, mais qui tire moins sur l'esthétique city pop que I Want You Closer.
Ouais.
Donc là, c'est vrai que vous avez, je pense, découvert des petites pépites du passé dans la musique japonaise. Et vous avez pioché. Je pense que vous pouvez nous parler justement de cette nuance pour rester vous-même aussi.
C'est de toute façon cette musique japonaise de la city pop, elle est tellement influencée par le R&B, la funk, le disco, la soul, afro-américaine, j'ai envie de dire. Mais mis à la sauce japonaise dans les années 70 et 80, que de toute façon, même eux, à l'intérieur de leur musique, il y a ces influences qui viennent de la musique afro-américaine. Et nous, c'est le cas de toute façon de base, donc afro-américaine ou même acid jazz anglaise avec Jamiroquai, des choses comme ça.
Absolument, un bon groove en 8 mesures, comment ça se travaille, et les japonais se sont inspirés de ce qui se faisait avant.
Tout à fait. Mais ce qui est beau dans cette musique city pop, et on va dire que c'est pas que city pop parce que c'est un terme qu'on a mis après, qu'on a collé après à cette musique-là, mais à toute cette scène florissante des années 70-80, c'est qu'en fait, ils prennent cette musique-là, ces influences-là, et ils en font quelque chose de totalement, j'ai envie de dire, unique. Et nous, c'est ce qu'on avait envie de faire, rendre hommage à ce côté unique de la musique japonaise de ces années-là, mais en la rendant elle-même unique parce que, en la confrontant à nos univers aussi différents à nous tous.
Et c'est vrai que c'est un retour qu'on avait pas mal au Japon, chroniqueur public ou autre, qui me disait que ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont l'habitude d'entendre des groupes de city-pop, parce qu'encore actuellement au Japon, il y a énormément de jeunes groupes même qui continuent à faire de la city-pop, mais ils sentaient vraiment que, bah, qu'en fait on est européen tout simplement, et qu'on n'a pas les mêmes influences, qu'on baigne pas dans les mêmes sonorités, les mêmes grooves, etc. Parce que cette musique à l'époque était influencée par ça, mais la scène actuelle, la city-pop, est influencée par la scène city-pop en fait. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose où maintenant elle est de plus en plus pointue, on va dire, celle qui sort actuellement. Et voilà, mais du coup, effectivement, il y avait cette rencontre entre les deux univers qu'on avait envie de développer, quoi.
Cette rencontre entre deux univers, vous êtes allé directement là-bas, parce que vous avez entamé une tournée au Japon et une release party de votre album là-bas.
Oui, absolument, ouais.
C'est Fiam, bah, tu peux nous en parler, voilà. Oui.
Là, je pense que c'est le moment de saluer, de faire un big up à notre manager sur place au Japon, donc Fabien Bonin. Sans qui ça aurait été vraiment difficile voire impossible. Fabien nous a permis d'aller là-bas, de découvrir non seulement le Japon à travers le prisme de la musique, mais à travers aussi ce que lui, son expérience personnelle à lui. Donc c'est vrai qu'on a, voilà, il nous a dégoté des super salles de concert, dont notamment la fameuse salle du Basement pour notre release party du 21 juin dernier. Que des belles expériences. Quand j'y repense, moi personnellement, j'ai vraiment uniquement des bons souvenirs et des envies de retour en fait. Donc c'était une découverte, mais je pense que quand on a mis le pied dans l'avion pour le retour, on s'est dit bah ce n'est qu'un au revoir, et puis on n'a qu'une seule attente au final, c'est d'y retourner, quoi.
J'imagine que votre release party, ça a été des acclamations d'un public japonais qui vous découvrait et qui était très, très content de vous voir. Comment ça s'est passé, hein, votre premier concert au Japon? Forcément, vous deviez avoir des appréhensions.
Bah, c'était vraiment un super moment. Je crois que même Nathan pourra le dire, il a versé une petite larme. Hein. Je suis désolé, Nathan, je m'exprime pour toi.
Tu peux,
c'est le cas, hein, t'as versé une petite larme, hein, c'est ça?
Ah, on sent l'émotion dans ses paroles, ça m'étonnerait pas.
Bah, c'est vrai que, donc déjà, c'était une très belle scène pour notre première date. Hein. C'était à Osaka. Et la salle était plutôt bien remplie. Et surtout, donc, le truc qui, je pense, nous a tous un petit peu choqués, bah, mais en positif. Hein,
ému.
Voilà, merci. On arrive donc à la salle, et là, au bout d'une demi-heure, la patronne vient nous voir, la patronne de la salle, elle nous tend un sachet et nous dit, voilà, c'est une fan qui a déposé ça pour vous. Donc on ouvre le paquet, effectivement, il y avait un petit mot écrit en français.
Oh, hein,
ouais.
En plus.
Voilà, et des petites spécialités du coin,
les pâtisseries,
du sucré surtout principalement.
Et puis surtout, elle venait d'Hiroshima, c'est pas tout à côté non plus d'Osaka.
Non, ouais, il y avait deux heures de route.
Donc elle a quand même fait de la route pour venir nous voir, donc c'est vrai que je crois que...
Très émouvant.
Ouais.
Alors, très émouvant comme moment.
C'est fou.
Et, en plus, à la fin, comme dit, à la fin de cette date... on s'est retrouvé à faire quoi, une séance de dédicace de quasiment une heure, quoi.
Oui,
ouais, c'était ça, ouais. Trois quarts d'heure environ, avec des gens qui viennent avec leur propre stylo Posca, wow, en prévision, ouais, de la dédicace des CD. Et c'est quelque chose qu'on, autant qu'on est, on n'avait jamais vu, quoi. Que ce soit en Italie, en Espagne, en Belgique, on n'avait jamais vu ça, quoi.
Vous aviez sur vous certainement le CD, l'édition vinyle de votre dernier EP, et vous les dédicaciez... à vos fans japonais qui vous attendent encore certainement.
Oui, voilà. C'est ça. On avait même une édition spéciale d'un vinyle deux titres, donc un petit 45 tours.
Exclusif au Japon.
Ouais, complètement exclusif au Japon, qui est sorti uniquement au Japon.
Pressé,
quoi.
Là-bas.
Ouais.
Ouais, ouais. On a ramené une dizaine d'exemplaires, mais voilà, on a pas le reste. C'est le label de là-bas qui qui les a. Donc voilà.
Mais on passe un appel. Il nous en reste un peu.
C'est vrai.
Si
il
jamais.
Nous en reste quelques-uns.
Des collectionneurs, des diggers.
Ah, franchement, un deux titres à l'ancienne. En plus, ce genre de vibe là, quand on les écoute en vinyle, c'est fantastique.
Ouais, c'est vrai qu'on était super contents. Je voulais juste en revenir vite fait au public, mais je crois que ce qui était assez génial, c'est du coup, on a travaillé à développer notre public là-bas, hein, clairement, pendant 2-3 ans. Donc on savait qu'on était écoutés, mais je crois que passer le cap du live, c'est toujours. Tu sais pas où est-ce que tu vas arriver en fait. Donc on se disait, bah peut-être que. Peut-être que les salles seront blindées, mais des gens qui nous connaissent pas et qui vont nous découvrir, ça va bien se passer. Peut-être qu'il y a des gens qui nous connaissent qui vont venir nous voir. Peut-être qu'il y aura juste personne. En fait,
l'appréhension doit être impressionnante.
Eh oui.
Bah, c'est l'avion et tout.
Ouais, c'est l'autre bout du monde, c'est une autre langue, c'est d'autres codes. Enfin voilà, donc c'est pas les mêmes habitudes de consommation même, tout simplement. Et effectivement, bah, comme le disait JM, c'est vrai qu'on a eu des accueils assez fous par ces cadeaux, ces gens qui se déplaçaient de loin pour venir nous voir.
Oui, parce que là, j'ai parlé du premier jour, mais ça s'est reproduit plusieurs fois, l'histoire des cadeaux, quand on arrivait dans les salles de spectacle.
Ah, ouais, ouais.
C'était assez systématique.
C'était pas isolé,
en fait,
c'est vraiment arrivé.
Le public japonais est connu pour être particulièrement volontaire et apprécier l'instant présent. J'imagine en plus que vous avez dû goûter au charme des petites salles aussi au Japon.
Complètement.
Très connues, très iconiques. Là-bas, il y a des très gros groupes qui passent dans des toutes petites salles justement. Pour
Live house.
Live house, pour être au contact du public.
Bah, c'est, comment dire, cette culture des live house, c'est vrai que... En France, on n'en a plus trop l'habitude déjà. Je sais qu'en Europe, ça continue. On va dans des pays comme en Allemagne ou en Italie. Même quand on joue en Italie, des fois, on joue de là-dedans.
Des clubs, en fait.
Des clubs, c'est ce qu'on appellerait des clubs. Et ce qui est dingue au Japon, c'est que dans ces live house, en fait, tout est prêt, tout est fait pour accueillir du concert tous les jours pendant toute l'année.
Le personnel et le matériel sont d'un professionnalisme c'est incroyable. Pour la taille des salles, c'est assez incroyable.
C'est hallucinant. Et du coup, c'est des endroits qui sont pleins de vie et même pleins d'histoires. On sent quand on rentre dedans qu'il y a eu des concerts. Ça peut être de n'importe quoi, de punk, de rock, de city pop,
de
J-pop, de tout ce que vous voulez. On sent que voilà, il y a vraiment, il y a une histoire. Et on sent surtout que le Japon, j'ai envie de dire de manière générale, et du coup les Japonais aiment la musique et sont des fervents amateurs de musique live aussi. Mmh. Et ça, du coup, cette culture des live house le prouve bien, parce que je pense qu'dans les grandes villes, il doit en avoir, je sais pas, légion des live house dans les grandes villes.
Ah oui.
Mais j'ai l'impression que, en fait, tous les soirs, il y a des concerts dans chaque live house, mais dans chaque live house, il y aura au moins un peu de public. C'est-à-dire qu'on sent que vraiment les gens ont envie de sortir et de voir des concerts.
Ouais, et de découvrir des groupes aussi.
Il y a une attitude de consommation de la musique qui est complètement différente, en tout cas de ce que nous, on connaît à Strasbourg. Ouais.
Effectivement, en France, on a eu un petit déclin des salles, des petites salles. Notamment, moi, je sais qu'à Strasbourg, par exemple, le Mode avait fermé. On a plein de petites salles qui essayent de garder leur activité.
Aussi.
Effectivement. Aujourd'hui, je pense qu'il reste le local, il doit y avoir le Blue Note, un peu la Péniche Mécanique aussi qui fait des
le lab, jeunes. La mer à bord aussi, très très.
Ouais,
très
ça revient quand même, mais effectivement, il y a une période où il y a eu un gros creux, on va dire, dans ces espaces un peu plus café-concert, on va dire, sur ce genre de jauge. Mais...
Ouais, le post-Covid a été dur, mais justement, on a eu une belle année, je suis d'accord avec toi.
Ouais, moi j'ai l'impression quand même que ça revient. Après, effectivement, c'est plus dans des tailles de salles, quand on parlait des live house avant, c'est vrai que c'est des jauges à 200, 300 personnes.
Ouais,
camionneur quoi.
Ouais, c'est un peu ça en fait. Mais, voilà.
On peut passer une petite larme aussi.
Mais c'est vrai que en fait, même en se baladant un peu en France, il y a de moins en moins des salles de cette jauge en fait. Souvent, dans les SMAC, tu as une grande salle et un petit club et tu as ce genre de truc, mais c'est pas comme. Là-bas, c'est vraiment à chaque fois. Bon, déjà, c'est pas des salles. National, on va dire quoi.
C'est un dé quoi.
C'est complètement un dé, donc chacun choisit sa prog. Mais tu vois, on était à Tokyo, dans certaines rues, il y avait, je sais pas, 8 live house dans la même rue quoi. Et en fait, il y a une profusion énorme au Japon, à Tokyo qui plus est, parce que, enfin, vu le monde qu'il y a dans cette ville, c'est sûr. Mais effectivement, et puis même le public nous disait qu'ils avaient l'habitude d'aller régulièrement dans leur live house préféré, un peu tout se fait beaucoup dans ton quartier, parce que effectivement bah tu peux pas aller à l'autre bout de Tokyo tous les jours.
Comme un quartier est une ville.
Chaque arrondissement est une ville.
Un quartier est une ville, effectivement. Mais voilà, tu sens que les gens ont vraiment l'habitude d'y aller régulièrement quoi. C'est pas j'y vais parce qu'il y a ce groupe qui est là, et je pense que ça c'est une différence assez énorme entre le public qu'on peut avoir en Europe, où on a plus du mal à amener découvrir,
sur la
voir
découverte,
des groupes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, de voir, etc. Mmh.
C'est vrai,
eux sont pas du tout frileux de tout ça quoi, parce que je sais pas l'expliquer, mais c'est super agréable quoi.
Surtout que chaque soirée c'est systématiquement directement une vingtaine, trentaine d'euros l'entrée pour de la découverte. Je suis pas sûr qu'en France ça marcherait quoi.
Ouais,
il y a une passion de la musique live acoustique au Japon. Je pense qu'il vous convient tout particulièrement, parce que votre musique affectionne vraiment le live, les vrais instruments sur scène. Donc je pense que pour vous c'était renouer avec une partie d'idéal de ce qu'est la production musicale.
Bah c'est vrai que c'est, comment dire, ça fait tout de suite chaud au cœur de voir un public qui, et c'est pas du tout pour dénigrer des publics ou d'autres, hein, ou pour les classifier, parce qu'en France, on a des publics incroyables, en Italie, quand on y a joué pareillement. Mais c'est vrai qu'au Japon, ce qu'on a tous constaté, et je crois qu'on était tous d'accord là-dessus, c'était de voir à quel, à quel point le public japonais est, écoute, et dans l'écoute.
Attentif.
Et attentif dans le respect aussi du concert, c'est-à-dire que, pendant tout le concert, il n'y a pas une personne qui va aller dehors pour commander une bière ou aller fumer une cigarette. C'est-à-dire qu'ils vont rester vraiment pendant tout le concert. Et c'est après, à la fin du concert, que là, ils vont prendre la pause. Alors que ça se trouve, peut-être qu'il y a un des morceaux qu'ils ont moins aimé, dans lesquels ils sont moins, ça peut arriver dans n'importe quel concert. Mais ils vont quand même rester
écouter
et écouter. Ouais. Écouter. Et à la fin, c'est ça qui est dingue aussi, quand ils viennent te voir à la fin au stand... Ils viennent nous voir. Déjà, ça peut durer une heure et demie, hein, parce que, et donc le concert, au lieu de durer 45 minutes, il dure 3 heures, parce ouais, qu'après, t'as la séance de dédicace et de discussion. Mais en plus, à la fin, ils vont tous faire
des analyses,
des retours et des analyses tout à fait
hyper, hyper
pertinents, constructifs. Gentil, mais tu sens que c'est sincère en plus.
Ouais, ouais.
C'est la volonté d'en discuter avec l'artiste, l'échange. Complètement. C'est beau,
tu sens que s'ils avaient rien à dire, ils auraient rien dit, mais là, ils ont vraiment quelque chose à dire et,
ouais,
et
ils ont ça leur tient
à cœur de le, voilà, ouais, à cœur de le dire. Quoi.
Et ça, c'est vrai que ça, c'est en fait, c'est super agréable en tant que musicien de sentir qu'à la fin d'un concert, on a eu un auditoire, des personnes qui ont été vraiment attentives. Et qui sont là à pouvoir dire, bah voilà, ça j'ai trop aimé. Moi je me souviens d'une, ça c'était une anecdote que j'ai trouvée vraiment super belle, c'était à Nagoya. On jouait dans un restaurant, café-concert, c'était un peu un mix de plein de trucs, une salle magnifique, le Tokuzo. Si jamais tout vous bois, allez là, à Nagoya, ouais. Allez au Tokuzo.
Complètement vintage.
Très magnifique. Vintage, magnifique, tout en bois. Et à la fin du concert, pendant tout le concert, j'avais vu un monsieur un peu en mode salaryman, donc vraiment... Voilà le cliché qu'on peut se faire, qui rentrait attaché du case. Travail, attaché case, cravate et
tout. Tout seul en plus, le mec.
Tout seul, c'est ça. Et qui va du coup se boire un peu un verre le soir, à la fin du boulot, dans cet endroit-là. Et il est resté pendant tout le concert. Je me suis dit, ok, est-ce qu'il nous connaît ou je sais pas. Et du coup, on vend nos CD à la fin. Et là, il vient me voir. Bien sûr, il avait une maîtrise de l'anglais qui était très partielle et approximative. Mais ça n'empêchait pas la discussion et le contact. Surtout que j'avais appris 2-3 petits trucs en japonais. Donc on arrivait à se faire les formules de politesse. Ah ouais. Et après, même avec les gestes, les sourires et tout, on arrive toujours à se comprendre. Et le monsieur me montre son téléphone. Et là, il me montre du coup l'annonce de notre concert, du coup. Où du coup, il y avait le lien vers notre clip Loneliness avec Natsu Summer. Un clip qui se passe à Paris et à Tokyo. Donc qu'on a filmé dans les deux villes.
Au duplex.
Exactement. Et il a réussi à me faire comprendre qu'en fait... Il m'a dit que ce morceau lui tenait énormément à cœur et que ce morceau le touchait particulièrement dans les paroles et dans le clip parce qu'il avait l'impression de se reconnaître sa vie de tous les jours à l'intérieur de ce clip. Et là, que quelqu'un du Japon me dise ça, alors que je veux dire, c'est nous qui avons fait une incursion dans leur culture, c'est nous qui sommes un peu les étrangers qui venons et que quelqu'un, du coup, de ce pays-là me fasse cette remarque, c'était pour moi une sorte presque de bénédiction et d'adoubement et c'était d'une gentillesse et ça m'a touché énormément.
Un honneur.
C'est un honneur, force. Tout à fait. Tout à fait.
Sortir de l'anonymat aussi, pour prendre la peine de rendre un peu de respect sur votre travail, sur la route accomplie aussi, c'est adorable de la part des fans et aussi du public en général.
Tout à fait.
Tout à l'heure, on va écouter « I want you closer ». Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du contexte de réalisation de ce morceau ?
Ça, c'est Nathan.
Nathan, vas-y.
Alors, c'est un titre déjà qui est du coup en collaboration avec une chanteuse qui s'appelle Asako Toki, qui est la fille du grand saxophoniste Hidefumi Toki, qui a joué notamment avec Yamashita Tatsuro.
Sparkle, on le connaît.
Exactement, c'est le solo dans Sparkle. C'est du coup le papa de cette chanteuse. Et si. Et qui du coup a transmis l'amour de toute cette musique-là à sa fille et qui est maintenant une grande dame de la city pop moderne et avec qui on a eu la chance d'avoir un featuring. Et je le dis avec un grand sourire là parce que c'est vrai que c'est une certaine fierté et un honneur.
Réussite.
Un honneur même. Parce qu'en plus, c'est une grande chanteuse.
Quelle
qui
voix.
Chante super bien.
Quelle
ah oui. Voix. Magnifique voix. Et grâce à Fabien là et notre ingé son Greg aussi, Grégory
oui,
Germain sur place, qui du coup ont réussi à rentrer en contact avec la production de cette chanteuse Et avec sa grande gentillesse et son, comment j'ai envie de dire,
son humilité.
Son humilité aussi. Et son envie peut-être de se confronter à d'autres cultures. Elle était là-dedans, ben, Madame Asako Toki, Asako Toki-san, a accepté de collaborer sur ce titre avec Bantu Closer, qui pour le coup, au niveau artistique, est, j'ai envie de dire, un peu un hommage à une sorte de mélange entre du funk boogie et city pop. Donc vraiment ce côté années 80, avec la basse, Jean-Math, qu'on reconnaît bien, slappé, les pêches de batterie, tout ça. Donc ce côté très
catchy,
un peu découpé, un peu. Catchy, ouais. Ouais.
Ah, c'est, voilà. S'il y avait une radio à Strasbourg dans les années 80, elle s'appellerait Émotion Strasbourg, et puis je suis sûr que l'on aurait entendu ce son-là, sorti du tréfonds de la passion peut-être, et de l'amour. Peut-être.
Alors il aurait fallu que le mec le cherche dans le futur.
Ouais, ouais c'est ça.
au niveau de l'enregistrement, ça s'est passé comment? Vous avez enregistré où?
Je parlais plus du projet global. En fait, ça a vraiment été un projet fait entre la France et le Japon, parce que les enregistrements sont pas mal à l'image de tout ce travail. En fait, nous on a enregistré toutes les parties rythmiques, tous nos instruments à nous, on va dire funk industry, à Strasbourg, dans différents endroits, hein, des studios, des maisons de vacances de copains.
Ah oui, n'oublie pas quand même qu'on a enregistré les cuivres au-dessus de Sainte-Marie-aux-Mines, voilà, à la Chambrette.
À la Chambrette, dans la maison d'un copain. Donc voilà, il y a plein d'endroits chez nos ingé-sons, etc., pour les voix. Et du coup, on a fait tout un travail à distance avec les chanteuses, déjà sur les échanges de base, sur ok, cette partie c'est cool, faudrait faire plus de ci, plus de ça, etc. Et derrière, du coup, elles ont enregistré à Tokyo. Après, pour les sessions de mix, on a fait ça chez Grégory Germain, du coup, qui est
à Tokyo.
Donc, qui est un Français aussi installé à Tokyo, mais ça fait 10 ans qu'il travaille sur des prods au Japon.
Je crois 20 ans même. Ça fait 20 ans qu'il est là-bas,
oui,
en tout cas.
Ça fait quelques temps, quoi. Donc c'était super, mais pareil, c'était une expérience en fait de faire ces sessions de mix, pas en physique en fait. Donc nous, on était tous les
six. Asako Toki était au Japon, vous envoyez des
Ouais, globalement, c'était
retours,
ça quoi. C'était beaucoup d'échanges à distance. Et en fait, comme je disais, plus globalement, c'est sur tout le projet, parce que Nathan parlait du clip de Loneliness avant, c'est un réalisateur français qui a tourné ça à Paris avec Nathan, et puis du côté de Natsu Summer, c'était un réalisateur japonais, j'ai plus le nom exact en tête, je suis désolé,
Shoyokuda.
Ok, c'est ça je crois. Qui a fait le tournage à Tokyo, et puis on a mis ça en commun. La pochette a été réalisée par Hiroshi Nagai, qui est un grand peintre emblématique de l'univers City Pop, qui était un
c'est
bon ami.
C'est le
Andy
Warhol japonais.
Ah oui, j'ai vu le fameux palmier qui renvoie à tout un héritage des années 80, incroyable.
Ah ouais, en fait, qui lui a vraiment participé aussi au développement de l'identité, on va dire visuelle et je dirais plus globale en fait de la City Pop, qui est pas non plus que la musique en fait. Faut pas l'oublier.
Ah oui, parce que l'esthétique renvoie aussi à ce qu'était le jazz fusion au Japon. Il y a tout un héritage graphique.
Même dans les clips, etc. C'est un tout en fait.
Et même socialement, avec cette bulle économique des années 80 en fait.
Oui,
les sorties dehors sur la Shonan Coast ou des choses comme ça.
Voilà. C'est ça.
C'était un peu estival toute l'année.
Exactement, c'est ça.
Et donc je pense que la production de ce disque est à l'image un peu de ce qu'on a essayé de faire. Donc c'est vraiment des échanges à distance en fait. Et ça transparaîtra aussi dans le documentaire. Mais parce que maintenant on a les moyens. Alors le Covid a fait beaucoup de mal, mais je pense que ça nous a permis de développer certaines choses. Il faut pas oublier le positif qu'on peut en tirer. Et mine de rien, ce côté de remote qu'on peut réussir à faire maintenant de façon beaucoup plus fluide, en fait, ça s'est beaucoup développé pendant le Covid, on a pris l'habitude de travailler comme ça. Et en fait, c'est vrai que ça paraît encore assez lunaire pour certaines personnes de se dire qu'on crée à distance, à 13 000 km de distance. Mais en fait, c'est possible maintenant. Mmh. Et ça s'est fait de façon hyper fluide, quoi. Je pense qu'on a répondu aux attentes des chanteuses, les chanteuses ont complètement répondu à nos attentes. Parce que c'était assez, je dirais pas inégal, mais il y en a certaines qui voulaient juste écrire un texte, d'autres qui voulaient vraiment participer à l'écriture de parties, etc.
Vraiment une patte aussi sur la composition du morceau.
Ouais, voilà.
C'est ça.
Qui ont vraiment...
Et en fait, c'était complètement possible, même de le faire à distance sur des échanges mail, visio, etc. Et du coup, ça rend le projet encore d'autant plus intéressant, je trouve.
Tout à l'heure, tu as dit qu'un documentaire allait arriver. Vous pensez qu'on pourra bientôt le regarder? Ça sort quand?
C'est en février normalement.
Février ou mars 2024. Alors ouais. on est en plein montage là.
Okay. Ouais. Plein de force, hein, on a hâte. Ça permettra de documenter votre tournée au Japon.
Ouais, complètement. Ouais.
Bah, ça sur quoi, sur France 2 ou France 3 ?
France 3 du coup.
Oh là là, 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 là. Tous les jours, tous les jours, moi je regarde France 3. Voilà.
Bah, du coup, on aura une soirée prime.
Je serai là.
Documentaire 52 minutes qui sera suivi par la captation d'un de nos concerts qu'on a fait au Pelpa Festival l'an dernier.
Oh, où vous aviez parlé de la City Pop aussi.
Ah, c'est là, du coup.
Que... Ah là là, et oui, et oui. D'accord. Incroyable, c'est vrai, vous avez clôturé le Pelpa Festival. Et là, là, oui, effectivement, il y avait un discours et tout. Autour.
En plus, c'est avec une reprise de Maria Takeuchi. Hein.
De Takeuchi Maria.
Maria Takeuchi, effectivement. Il y a deux teams, il y a Miki Matsubara ou Maria Takeuchi. Il faut faire un choix.
Moi, j'aime les deux.
Moi, j'écoute les deux.
Ça fera rigoler nos potes qui aiment bien la City Pop aussi.
À la base, c'est intéressant pour les deux.
Oh, là, t'as de quoi faire.
Et à boire et à manger chez les deux.
Incroyable, incroyable. Pour finir, avant d'envoyer le morceau, est-ce que vous avez des actualités, peut-être des petites sorties qui arrivent ? Est-ce qu'il faut se tenir au courant sur vos réseaux ? Il y a des choses qui arrivent ?
Bah alors, comme dit, il y aura ce gros volet sur le documentaire qui va être vraiment un moment important pour nous aussi, parce qu'on a aussi la volonté de le défendre, ce documentaire, ouais, certainement.
Il y aura une avant-première aussi à Strasbourg avant la sortie France 3, donc on est en train de mettre tout ça en place.
Donc
sera ciné ou salle à Strasbourg.
Super.
On est en plein dedans. Et voilà, après, diffusion du documentaire, je pense que ça va... Enfin, nous, on va être très contents de revoir ces images et j'espère qu'on arrivera à faire voyager aussi des gens par le biais de ce documentaire-là.
Non, sinon, il ne faut surtout pas oublier que le vinyle, le CD sont toujours à vendre en ligne et puis, a priori, peut-être aussi toujours à la FNAC de Strasbourg.
Complètement. Parce que
disponible dans les bacs.
Dans ma tête, moi, dès que je parle de ce projet, je dis toujours l'an dernier, mais en fait, c'était il y a 3 mois.
Bah oui,
pas si longtemps.
Ouais, mais c'est clair.
Mais il y a tellement de choses qui se sont passées, on peut pas t'en vouloir.
Voilà, merci Jean-Math de rappeler qu'en effet, ce CD n'est pas si vieux.
Ouais,
non, il y a à peine 3 mois, les gars.
Il est en CD, en vinyle encore.
Tout frais.
CD vinyle, ouais. Et puis, contactez-nous si vous voulez le pressage japonais.
Ah oui, petit message privé sur votre page Insta pour obtenir le pressage de titre incroyable.
Complètement.
On en a un peu encore.
Voilà. Et après, nous, de notre côté, là, on travaille sur des créations. Donc, je pense que pour finir tout ça, mais je pense que ce que nous a appris ce projet aussi, c'est que ce qu'on aimait travailler sur des collaborations.
On va continuer
à confronter notre univers avec d'autres artistes, en fait. Et plus forcément qu'au Japon, là, on a envie d'explorer un peu d'autres pays, ne serait-ce qu'en Asie, même avec. On parlait de Taïwan.
On parle de Taïwan, de chanteurs peut-être un peu.
Et de la Corée aussi.
Et Corée,
on a parlé Corée aussi dans la première partie de cette émission.
Voilà, je suis client.
Donc nous, on va pas mal s'enfermer là, justement, pour faire des petites résidences de créa.
On retourne au-dessus de Sainte-Marie la semaine prochaine.
Voilà.
Ouais. Et dédicace à la chambrette.
C'est ça. Et des sorties, je pense, pour début 2024 qui vont arriver.
Très cool, très cool.
C'est clair.
Merci d'avoir pensé à vos ingé-sons et les gens qui vous enregistrent aussi, c'est super de votre part.
Bah, sans eux, on ferait pas grand-chose non plus.
Ah non, c'est sûr.
On a des connaissances, bien sûr, en son, mais elles sont partielles par rapport aux leurs.
Oula.
Vous nous envoyez leur nom quand même, on peut leur faire une petite dédicace.
Alors, Samuel Kapoor et Florian Sigvald.
Allez, c'est cool.
Bisous les copains.
C'est le moment, moi aussi, de faire un big up à Thomas Marinelli,
bravo,
qui
Thomas.
Est derrière la vitre et tout. Notre ingé-son en radio.
C'est un plaisir de te revoir, Thomas.
Donc si ça vous va, on envoie votre son I Want You Closer
avec plaisir.
Avec Toki Asako au chant.
Avec plaisir.
That's the future, that's the best. Just you and me.